Après la mort, deuxième partie, chapitre 8. Toute la journée suivante, Aratov fut de mauvaise humeur. « Qu'est-ce, Yasha ? » lui demandait Platonida. « Tu as aujourd'hui l'air tout détraqué. » Dans le langage particulier de la petite vieille, cette expression rendait assez exactement l'état moral d'Aratov. Il ne pouvait pas travailler, il ne savait pas lui-même ce qu'il désirait. Tantôt il se mettait à attendre Kupfer, il soupçonnait que c'était de Kupfer que Clara avait eu son adresse, et quel autre aurait pu tant parler de lui. Et tantôt il se demandait si vraiment ses relations devaient se terminer ainsi. Parfois il s'imaginait qu'elle lui écrirait, ou bien ne serait-ce pas à lui d'écrire une lettre dans laquelle il lui expliquerait tout, car il ne désirait pourtant pas lui laisser une impression défavorable. Mais expliquer quoi ? Tantôt il tâchait d'exciter en lui-même une sorte de dégoût pour elle, pour son indiscrétion, pour sa hardiesse, puis de nouveau se représentait à lui ce visage indiciblement touchant et cette voix d'un accent irrésistible. Puis il se rappelait son chant, sa manière de lire, et il ne savait plus s'il avait eu raison dans son jugement sévère. En un mot, c'était un homme détraqué. Enfin, tout cela finit par l'ennuyer, et il se décida, comme on dit, à se faire une raison et à biffer toute cette histoire qui le dérangeait de ses occupations et troublait son repos. Mais ce ne fut pas chose facile. Une semaine se passa avant qu'il pût rentrer dans son ornière habituelle. Heureusement, Kupfer ne paraissait plus du tout. On eût dit qu'il avait quitté Moscou. Peu de temps avant cette histoire, Aratov avait commencé à s'occuper de peinture au point de vue de la photographie. Il s'y remit avec un redoublement de zèle. Ainsi, insensiblement, avec quelques légères rechutes, comme disent les docteurs, Aratov, par exemple, fut un jour sur le point de rendre visite à la princesse. Ainsi se passèrent 2-3 mois, et Aratov redevint l'Aratov d'autrefois. Seulement, là, en dessous, sous la surface de sa vie, quelque chose de lourd, de sombre, l'accompagnait secrètement partout et toujours. Ainsi un grand poisson, saisi par l'hameçon, mais qui n'est pas encore arraché de l'eau, suit en nageant au fond de la rivière le bateau sur lequel se tient le pêcheur, sa forte ligne à la main. Mais voici qu'un jour, parcourant un numéro de la Gazette de Moscou, Aratov tomba sur la correspondance suivante. « C'est avec un profond chagrin, écrivait un littérateur du Cru, de la ville de Kazan, que nous insérons dans notre chronique théâtrale la nouvelle de la fin subite de notre remarquable actrice, Clara Milich, qui avait su, dans le temps relativement court de son engagement, devenir la favorite de notre public, si connaisseur et si difficile. Notre chagrin est d'autant plus profond que c'est Mademoiselle Milich elle-même qui volontairement a mis fin à sa vie, si jeune et si pleine d'espérance, par le moyen du poison. Et cet empoisonnement est d'autant plus horrible que l'artiste a bu le breuvage fatal sur le théâtre même. On eut beaucoup de peine à la ramener chez elle, où, au regret général, elle expira. Le bruit court qu'un amour malheureux aurait été la cause de cette action funeste. Aratov déposa doucement le numéro du journal sur la table. À le voir, il était resté calme. Mais quelque chose comme un choc heurta tout à coup violemment dans sa poitrine, dans sa tête, puis glissa lentement le long de tous ses membres. Il se leva, resta quelque temps immobile, se rassit, relut la correspondance, se releva, se coucha sur son lit et, les mains croisées derrière la tête, comme un homme envahi par le brouillard, regarda longuement la muraille. Peu à peu, cette muraille s'effaça, disparut, et il aperçut devant lui et le boulevard sous un ciel gris, et elle dans sa mantille noire, puis elle encore sur l'estrade, puis lui-même à côté d'elle. Ce même choc, qui l'avait si violemment frappé à la poitrine au premier moment, se mit à remonter lentement vers la gorge. Il voulut s'éclaircir le gosier, il voulut appeler, mais sa voix le trahit, et à son propre étonnement, des larmes abondantes jaillirent de ses yeux. Qu'est-ce qui avait excité ces larmes? La pitié ou le remords? Ou simplement les nerfs qui n'avaient pu résister à un coup subit? Car elle n'était rien pour lui, n'est-ce pas? Une pensée soudaine lui traversa la tête. Mais peut-être n'est-ce pas vrai? Il faut s'informer. Mais auprès de qui? De la princesse? Non. Auprès de Kupfer? De Kupfer. Mais on dit qu'il n'est pas à Moscou. C'est égal. C'est par lui qu'il faut commencer. Aratov s'habilla rapidement, prit un svotchik et partit au galop. Chapitre 9. Il n'espérait pas le trouver à la maison, et cependant il le trouva. Kupfer avait, en effet, quitté Moscou pour quelque temps, mais il était de retour depuis une semaine et se proposait d'aller voir Aratov. Il le reçut avec sa bonne humeur habituelle et déjà allait lui raconter quelque chose lorsque Aratov l'interrompit avec impatience. « Tu as lu? C'est vrai? » « Quoi, c'est vrai ?» répondit Kupfer étonné. « Au sujet de Clara Milich. » Le visage de Kupfer exprima la pitié. « Oui, oui, frère, c'est vrai. Elle s'est empoisonnée. Quel malheur !» Aratov se tut un instant. « Tu l'as lu aussi dans un journal ? Ou bien peut-être es-tu allé toi-même à Kazan ?»«
Je suis allé à Kazan, en effet. Elle y a débuté avec grand succès. Seulement, je ne suis pas resté là jusqu'à la catastrophe. Je me trouvais à Jaroslav. »«
À Jaroslav ? » ?»«
Oui, j'y avais accompagné la princesse. C'est là qu'elle s'est établie à présent. »
« Mais as-tu des nouvelles certaines ?»«
Les plus certaines, de première main. À Kazan, j'ai fait la connaissance de toute sa famille. »«
Mais attends un peu, frère. Il me semble que cette nouvelle t'agite singulièrement. Et pourtant, autant qu'il me souvienne, Clara ne t'avait pas plu. Tu avais tort. C'était une jeune fille extraordinaire. Mais une tête, oh, une tête !» Sa mort m'a causé beaucoup de chagrin.
Aratov se laissa tomber sur une chaise et, après un moment de silence, pria Kupfer de lui raconter. Il hésita.
« Mais quoi donc ? » demanda Kupfer. « Mais tout ! » répartit lentement Aratov. « Sur sa famille, sur elle, tout ce que tu sais. »
« Cela t'intéresse donc bien ?»
Et Kupfer, d'après le visage duquel on n'aurait pas dit qu'il eut tant de chagrin, commença son récit. Le véritable nom de Clara Milich était Catherine Milovidov. Son père, mort depuis quelque temps, avait été maître de dessin au gymnase de Kazan. Il peignait de méchants portraits et des images d'église, et passait pour un ivrogne et pour un tyran domestique. Il avait laissé après lui, premièrement, une veuve de la caste des marchands, une femme sotte, absolument sotte, sortie tout droit des comédies d'Ostrovski. Et deuxièmement, une fille beaucoup plus âgée que Clara et qui ne lui ressemblait guère, une personne très intelligente, mais exaltée, maladive, une personne très remarquable, mon ami, et développée, très développée. Elles vivaient toutes deux, mère et fille, convenablement dans une assez gentille maisonnette, achetée du produit de ses méchants portraits et de ses images de pacotille. Quant à Clara, ou Katia, si tu veux, elle avait frappé tout le monde par ses aptitudes dès son enfance. Mais son caractère était capricieux, insoumis. Elle ne faisait que se chamailler avec son père. Ayant une passion innée pour le théâtre, elle s'était enfuie à 16 ans de la maison paternelle, avec une actrice.
« Avec un acteur ?» interrompit Aratov.
« Non, pas avec un acteur, mais avec une actrice, à laquelle elle s'était attachée. »
Il est vrai que cette actrice avait un protecteur, un seigneur riche, assez vieux, qui ne l'avait pas épousée par la seule raison qu'il était déjà marié. Du reste, l'actrice, de son côté, paraît-il, était aussi mariée. Avant son arrivée à Moscou, Clara avait déjà joué et chanté dans les théâtres de province. Puis, ayant perdu son amie l'actrice, le protecteur était mort ou s'était réconcilié avec sa femme, Kupfer ne savait pas au juste. Clara avait fait la connaissance de la princesse, cette femme d'or, ajouta le narrateur, non sans conviction. Que toi, Jacques Andréïtch, tu n'as pas su apprécier à sa juste valeur. Enfin, Clara reçut des propositions de Kazan et les accepta, bien qu'elle eût souvent assuré qu'elle ne quitterait pas Moscou. Aussi, comme les Kazaniens s'étaient mis à l'aimer, c'était étonnant. À chaque représentation, des bouquets et un cadeau, des bouquets et un cadeau. Un marchand de grains, le premier gros bonnet de la province, lui avait même fait hommage d'un encrier en or. Kupfer avait raconté tout cela avec une grande animation, mais sans la moindre trace de sentimentalité, n'interrompant son discours que par des exclamations « Tu veux savoir encore cela? Pourquoi faire ?» Quand Aratov, qui l'écoutait avec une attention dévorante, exigeait de lui des détails toujours plus précis. Enfin tout fut dit, et Kupfer se tut, s'étant récompensé de sa peine par un cigare. « Mais pourquoi donc s'est-elle empoisonnée ?» demanda Aratov. « Il est dit dans le journal... » Kupfer éleva les deux mains en l'air. « Ah, cela, je ne puis le dire, je ne sais pas. Mais le journal radote. La conduite de Clara était exemplaire. Des amourettes, avec sa fierté, car elle était fière comme Satan en personne, et inabordable. Je te l'ai dit, une tête. » « Dur comme de la pierre. Le croirais-tu? Je l'ai pourtant connu bien intimement, et pourtant je n'ai jamais vu de larmes dans ses yeux. »« Et moi, j'en ai vu, » pensa Aratov. « Je dois pourtant dire, » continua Kupfer, « que dans les derniers temps, j'avais remarqué en elle un grand changement. Elle était devenue morose, silencieuse. On ne pouvait lui arracher une parole. » Je lui ai demandé plusieurs fois « Quelqu'un ne vous aurait-il pas offensé, Catherine Semenovna ?» Car je connaissais bien son caractère. Elle ne pouvait pas supporter une offense. Elle se taisait, et basta. Même les succès au théâtre ne lui faisaient pas grand plaisir. Les bouquets tombaient de toutes parts, et elle ne souriait seulement pas. C'est à peine si elle a jeté un regard sur l'encrier du marchand de grains. Elle se plaignait beaucoup de ce que personne ne lui écrivit un vrai rôle, tel qu'elle le comprenait. Quant au chant, elle l'avait complètement abandonné. « Pardonne-moi, frère, mais je lui ai répété ce que tu avais dit de son manque d'école. Avec tout cela, pourquoi elle s'est empoisonnée, c'est inconcevable. Et de quelle façon encore ? Dans quel rôle a-t-elle eu le plus de succès ? Aratov avait voulu demander dans quel rôle elle avait paru pour la dernière fois, mais Dieu sait pourquoi il demanda autre chose. Dans la Grugna d'Ostrovski, mais je te le répète, d'amourette, point, juge-en toi-même, elle vivait dans la maison de sa mère. Tu sais, il y a de ces maisons de marchands, dans chaque coin un tas d'images et une lampe, une chaleur étouffante, ça sent l'aigre. Dans le salon, rien que des chaises le long des quatre murs, des pots de géranium aux fenêtres, et dès qu'un visiteur arrive, la maîtresse de la maison se met à pousser des « Ah, mon Dieu !» comme si un ennemi s'approchait. Où veux-tu qu'il y ait là des « faire la cour » et des « amours » Même moi, on ne me laissait pas toujours entrer. Leur servante, grosse paysanne en sarafane de toile de Koumatch, aux mamelles pendantes, se place en travers de vous, les jambes écartées, et vous rugit « Où vas-tu ?» Non, décidément, je ne puis comprendre pourquoi elle s'est empoisonnée. Elle en aura eu assez de la vie, conclut philosophiquement Kupfer. Aratov se tenait assis, la tête penchée. « Peux-tu me donner l'adresse de cette maison à Kazan ? » dit-il enfin. « Je le puis, mais qu'en veux-tu faire ? Voudrais-tu y envoyer une lettre ? » « Peut-être. » « C'est ton affaire. Seulement la vieille ne te répondra pas, car elle ne sait pas l'orthographe. La sœur, peut-être. Elle est bien intelligente, la sœur. Mais je dois te dire que tu m'étonnes. Quelle indifférence auparavant, et maintenant quel intérêt. Tout ça, mon cher, vient de la solitude où tu vis. » Aratov ne répondit rien à cette observation et s'en alla, muni de l'adresse demandée. Quand il s'était rendu chez Kupfer, son visage exprimait l'agitation, l'étonnement, l'attente. Maintenant, il allait d'un pas égal, les yeux baissés, le chapeau enfoncé sur le front. Plus d'un passant le suivit d'un regard interrogateur, mais il ne faisait pas attention aux passants. Ce n'était pas comme cette autre fois sur le boulevard. Malheureuse Clara, Clara l'insensée. Ce refrain résonnait en son âme. Chapitre 10. Et pourtant, le lendemain, Aratov fut tranquille et reprit ses occupations. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Kupfer lui avait dit la veille, mais ses réflexions étaient assez paisibles. Il lui semblait que cette étrange jeune fille l'intéressait au point de vue psychologique, comme une énigme dont il valait la peine de chercher le mot. Elle s'est enfuie avec cette actrice entretenue. Elle s'est mise sous la protection de cette princesse chez laquelle elle a demeuré. Et pas d'intrigue amoureuse ? Invraisemblable ! Que faire parier de sa fierté ? Mais nous savons. Aratov aurait dû dire « Nous avons lu dans des livres » que la fierté peut très bien faire bon ménage avec une conduite légère. Et en second lieu, comment ? Elle, si fière, a-t-elle donné un rendez-vous à un homme qui aurait pu lui témoigner du dédain, et qui lui en a témoigné? Mais ici, Aratov se demanda, lui avait-il en effet témoigné du dédain? Non, c'était un sentiment de surprise, d'incrédulité peut-être. Malheureuse Clara, retentit en lui de nouveau. Oui, malheureuse, dit-il enfin. C'est le mot qui s'applique le mieux à elle. Et si c'est ainsi, j'ai été injuste. Elle avait raison de dire que je ne l'avais pas comprise. C'est dommage. Une nature bien remarquable, peut-être, a passé si près de moi et je n'en ai pas profité. Je l'ai repoussée. Eh bien, après tout, j'ai toute la vie devant moi. Je ferai bien d'autres rencontres encore. Mais pourquoi est-ce précisément moi qu'elle a choisi ? Il jeta un regard dans le miroir devant lequel il passait. Qu'y a-t-il donc de si particulier en moi ? Je ne suis pas déjà si beau, un visage comme tous les autres. Du reste, elle n'est pas belle non plus. Elle n'est pas belle, mais quel visage expressif ! Immobile, mais expressif. Je n'en ai pas encore rencontré de semblable. Et elle a aussi du talent. C'est-à-dire, elle avait du talent, indubitablement. Un talent sauvage, non développé, mais rude, mais véritable. Et là aussi, j'ai été injuste envers elle. Aratov se transporta par la pensée à la matinée musicale et remarqua qu'il se rappelait très distinctement chaque parole parler ou chanter par elle, chaque intonation. Cela n'aurait pas eu lieu si elle n'avait pas eu de talent. Et maintenant, tout cela est dans la tombe où elle s'est précipitée elle-même. Mais il n'y a pas de ma faute. Non, il serait ridicule de penser qu'il y a de ma faute. En supposant même qu'il y ait eu quelque chose de ma part. Ma conduite pendant l'entrevue a dû la désillusionner complètement. C'est aussi pour cela qu'elle a eu ce rire cruel en me quittant. Et puis, quelle preuve y a-t-il qu'elle se soit empoisonnée par amour ? Il n'y a que les correspondants de journaux qui attribuent de pareilles morts à un amour malheureux. Aux personnes du caractère de Clara, la vie devient facilement un ennui, un fardeau. Oui, décidément, Kupfer a raison. Elle en avait assez de la vie.
Malgré ses succès, ses ovations,
Aratov se mit à rêver. Cette analyse à laquelle il se livrait lui était en quelque sorte agréable. Étranger jusqu'alors à tout contact avec les femmes, il ne soupçonnait pas lui-même combien cette persistance à déchiffrer une âme féminine était significative pour lui.
« S'il en est ainsi, continua-t-il, l'art ne la contentait donc pas, ne remplissait pas le vide de sa vie. Les véritables artistes n'existent que pour leur art. Tout le reste pâlit devant ce qu'ils reconnaissent être leur vocation. Ce n'était qu'une dilettante. »
Mais ici, Aratov s'arrêta de nouveau. Non, le nom de dilettante n'allait pas à ce visage, à l'expression de ses yeux. Et devant lui surgit encore l'image de Clara, avec son regard noyé de larmes et fixé sur lui, avec ses mains pressées l'une contre l'autre et soulevées jusqu'à ses lèvres.
« Assez, assez !» se dit-il, comme brisé de fatigue. « À quoi bon tout cela ?»
Ainsi se passa la journée. Pendant le dîner, Aratov causa longtemps avec Platosha, la questionna sur le temps d'autrefois, dont elle ne se souvenait guère et qu'elle racontait mal, n'étant pas de langue facile et n'ayant de sa vie fait attention qu'à son Yasha, qu'elle était heureuse de voir ce jour-là si gentil et si bon. Il finit même par jouer aux cartes avec elle.
Ainsi se passa la journée.
Mais la nuit...
Chapitre 11. Elle avait bien commencé. Aratov s'était bientôt endormi. Et quand la tante entra sur la pointe des pieds dans sa chambre pour faire trois fois le signe de la croix au-dessus de sa tête, ce qu'elle ne manquait pas de faire chaque nuit, il était tranquillement étendu et respirait comme un enfant. Mais vers le matin, il eut un rêve. Il lui sembla qu'il marchait dans une steppe vide parsemée de grosses pierres sous un ciel bas. Un sentier serpentait à travers les pierres. Il le suivit. Tout à coup, devant lui, s'élève comme un léger nuage. Il regarde. Ce nuage devient une femme, vêtue de blanc, avec une étroite ceinture en or autour de la taille. Elle s'éloigne de lui en toute hâte. Il ne pouvait voir ni son visage ni ses cheveux. Un long voile les couvrait. Il voulait à toute force la rattraper et la regarder dans les yeux. Mais il avait beau se hâter, elle marchait plus vite que lui. Sur le sentier se trouvait une large pierre plate, semblable à une dalle de tombeau. Cette pierre barrait le chemin à la femme. Elle s'arrêta. Aratov s'approcha en courant. Elle se retourna vers lui, mais il ne vit pas davantage ses yeux. Ils étaient fermés. Son visage était blanc. Blanc comme la neige. Ses bras pendaient immobiles, elle ressemblait à une statue. Lentement, sans plier un seul membre, elle se renversa en arrière et s'étendit sur la dalle. Et, sans savoir comment, Aratov se trouve étendu auprès d'elle, tout son corps raide et droit comme une figure de tombeau, et ses mains croisées comme celles d'un mort. Mais ici, la femme se souleva tout à coup et s'éloigna. Aratov veut aussi se soulever, mais il ne peut ni décroiser ses bras ni bouger. Il la suit du regard avec désespoir. Alors la femme se retourna soudain et il aperçut des yeux vivants et clairs, sur un visage vivant aussi, mais inconnu. Elle rit, elle l'appelle de la main, mais il ne peut toujours pas bouger. Elle rit de nouveau et s'éloigne en balançant gaiement la tête, sur laquelle a tout à coup surgi une couronne de petites roses rouges. Aratov essaie de crier, de secouer cet horrible cauchemar. Tout devient sombre, et la femme reparaît auprès de lui. Mais ce n'est plus la statue, c'est Clara. Elle se tient devant lui, les bras croisés, et le regarde avec une attention sévère. Ses lèvres sont serrées,
mais il semble à Aratov qu'il entend les mots suivants. « Si tu veux savoir qui je suis, va là-bas. »«
Où cela ? » demanda-t-il.
« Là-bas, » répond une voix gémissante. « Là-bas !» Aratov se réveilla en sursaut. Se dressant dans son lit, il alluma la bougie sur la table, mais ne se leva point et resta longtemps assis, tout refroidi, regardant lentement alentour. Il lui sembla que depuis qu'il était couché, il lui était arrivé quelque chose, que ce quelque chose s'était emparé de lui, l'avait envahi pleinement. « Mais est-ce que ce serait possible ? » murmurait-il avec une sorte d'égarement. « Un pareil pouvoir peut-il exister ?» Il ne put rester dans son lit. Il s'habilla lentement et jusqu'au matin marcha dans sa chambre. Et chose étrange, il ne pensait pas un instant à Clara. Il ne pensait pas à elle parce qu'il s'était décidé à partir, dès le lendemain, pour Kazan. Il ne songeait qu'à ce voyage, à la façon de le faire, à ce qu'il fallait prendre. Il se disait qu'une fois là, il tirerait tout au clair et alors se tranquilliserait. « Si je n'y vais pas, pensait-il, je suis capable de devenir fou. » Il avait peur à cette pensée. Il craignait ses propres nerfs. Il était persuadé que dès qu'il aurait vu lui-même les choses de ses propres yeux, toute cette diablerie s'évanouirait comme son cauchemar de la nuit. Ce voyage ne prendra pas plus d'une semaine, et qu'est-ce qu'une semaine? Autrement, je n'en serai jamais délivré. Le soleil levant éclaira sa chambre, mais la lumière du jour ne chassa pas les ombres nocturnes qui s'étaient étendues sur lui, et sa décision resta inébranlable. Platocha manqua avoir un coup de sang quand Aratov la lui communiqua. Ses jambes défaillirent au point qu'elle dut s'accroupir par terre. « Comment ? À Kazan ? Pourquoi à Kazan ? » murmurait-elle en écarquillant tout grand ses pauvres yeux myopes. Elle n'aurait pas été plus stupéfaite si elle avait appris que son Yasha allait épouser la boulangère du coin ou qu'il partait pour l'Amérique. « Et pour longtemps, à Kazan ? »
« Je serai de retour dans une semaine, » répondit Aratov en se détournant à demi de sa tante, toujours accroupie par terre.
Platocha allait répliquer, mais il l'arrêta, avec une violence inattendue. « Je ne suis pas un enfant » cria-t-il, tout pâle, les lèvres tremblantes et un éclair de colère dans les yeux. « J'ai 25 ans passés, je sais ce que je fais, et je suis libre de faire ce que je veux. Je ne permettrai à personne. Donnez-moi de l'argent pour le voyage. Préparez-moi ma malle avec du linge et des habits et ne me tourmentez plus. Je reviendrai dans une semaine, Platocha, » ajouta-t-il d'une voix plus douce. Platocha se releva en geignant et sans répliquer, se traîna dans sa chambre. Yasha l'avait effrayé.
« Ce n'est pas une tête que j'ai sur les épaules, » disait-elle à la cuisinière qui l'aidait à emballer les effets de Yasha. « Ce n'est pas une tête, c'est une ruche. Et quelles sont les abeilles qui y bourdonnent, je n'en sais rien. Il va à Kazan, ma mère, il va à Kazan. »
La cuisinière, qui avait vu la veille Lord Vornik avoir une longue conversation avec un homme de police, eut un instant l'idée de faire part à sa maîtresse de cette circonstance. Mais elle se mordit la langue et se contenta de penser « À Kazan, pourvu que ce ne soit pas beaucoup plus loin. » Quant à Platocha, elle était tellement bouleversée qu'elle ne prononçait même plus sa prière habituelle. Dans une pareille calamité, Dieu lui-même ne pouvait pas lui venir en aide. Le jour même, Aratov partit pour Kazan. Chapitre 12. Arrivé dans cette ville, il prit à peine le temps de retenir une chambre dans une auberge et courut à la recherche de la maison de la veuve Milovidov. Pendant tout le voyage, il s'était trouvé dans une sorte de torpeur qui ne l'empêchait pourtant pas de s'occuper du nécessaire,
de se transporter du chemin de fer au bateau à vapeur, de dîner aux stations. Il continuait à être persuadé que, là, tout s'éclaircirait, et chassant loin de lui tout souvenir et toute considération, il se contentait de préparer dans sa tête le speech par lequel il exposerait à la famille de Clara Milich le motif de son voyage. Le voilà enfin arrivé devant la porte. Il se fait annoncer. On le laisse entrer, avec étonnement, mais on le laisse entrer. La maison de la veuve Milovidov était en effet telle que Kupfer l'avait décrite, et la veuve elle-même semblait être une des marchandes des comédies d'Ostrovski, tout en étant femme d'employé. Son mari avait eu le grade d'assesseur de collège. Non sans quelque hésitation, Aratov, après s'être préalablement excusé de sa hardiesse et de l'étrangeté de sa visite, prononça le speech qu'il avait préparé. Comme quoi il avait l'intention de rassembler tous les renseignements nécessaires sur la jeune artiste prématurément enlevée au monde. Il ajouta que ce n'était pas une vaine curiosité qui l'amenait, mais bien une profonde sympathie pour un talent dont il avait été l'admirateur. Il se servit vraiment du mot « admirateur ». Et qu'enfin c'eût été un péché de laisser le public dans l'ignorance de ce qu'il avait perdu, et pourquoi ses espérances avaient été frustrées. Madame Milovidov n'interrompit pas Aratov. Elle ne comprenait pas trop bien ce que lui disait ce visiteur inconnu. Elle se contentait de l'examiner curieusement de la tête aux pieds, tout en trouvant qu'il avait l'air modeste, qu'il était habillé convenablement, et que, pour sûr, ce n'était ni un vagabond ni un demandeur d'argent. « Tout ça, c'est à propos de Katia ?» dit-elle quand Aratov se tut. « Oui, madame, de votre fille. »« Et vous êtes venue pour cela de Moscou ?»«
De Moscou ?»«
Seulement pour cela ?»«
Mais oui !»
Madame Milovidov se redressa tout à coup. « Vous êtes un auteur? Vous écrivez dans les journaux ?»«
Non, je ne suis pas un auteur, et jusqu'à présent je n'ai pas écrit dans les journaux. »
La veuve baissa la tête, elle ne savait trop que penser. « Ainsi donc, de votre propre gré » demanda-t-elle brusquement. Aratov ne trouva pas sur le champ que répondre. « Par sympathie, par respect pour le talent, » dit-il enfin. Le mot de « respect » plut à Madame Milovidov. « Enfin, » dit-elle avec un soupir, « quoique je sois sa mère et que cela m'ait fait bien du chagrin, un pareil malheur tout à coup, mais je dois dire qu'elle a toujours été une écervelée et qu'elle a fini comme une écervelée. Quelle honte, jugez-vous-même, pour une mère !» Il faut encore dire merci de ce qu'on l'ait enterré chrétiennement. » Madame Milovidov fit le signe de la croix. Dès son enfance, elle ne se soumettait à personne. Elle a abandonné la maison paternelle. Et enfin, c'est facile à dire, elle s'est faite actrice. Naturellement, je ne lui ai pas refusé ma maison, car je l'aimais après tout, j'étais sa mère. Elle ne pouvait pas cependant vivre chez des étrangers et mendier son pain. » Ici, la veuve versa quelques larmes. « Et si, monsieur, » reprit-elle en s'essuyant les yeux avec un des bouts de son fichu, « si en effet vous avez une telle intention, si vous ne machinez pas quelque chose de déshonorant pour nous, mais si, au contraire, vous voulez nous témoigner de l'affection, dans ce cas... « causez un peu avec mon autre fille, elle vous racontera tout mieux que moi. »«
Anouchka !» cria Madame Milovidov. « Anouchka, viens ici. Il y a ici un monsieur de Moscou qui désire causer à propos de Katia. »
On entendit un léger bruit dans la chambre voisine, mais personne ne parut.
« Anouchka !»
cria de nouveau la veuve.
Anna Semeonovna, viens donc ici, puisqu'on t'appelle. »
La porte s'ouvrit lentement, et sur le seuil parut une personne, pas très jeune, à l'air maladif, pas jolie, avec des yeux très doux, bons et tristes. Aratov se leva, alla à sa rencontre et se présenta en se recommandant de son ami Kupfer.
« Ah, Féodor Féodoritch !» dit la jeune fille à voix basse, et elle prit sans bruit une chaise.
« Eh bien voilà, cause avec le monsieur !» dit Madame Milovidov en se soulevant lourdement de sa place. « Il s'est donné beaucoup de peine. Il est venu de Moscou tout exprès et désire avoir des renseignements sur Katia.
« Quant à moi, monsieur, » ajouta-t-elle en se tournant vers Aratov, « vous m'excuserez, je m'en vais à faire de ménage. Avec Anouchka, vous pourrez très bien vous expliquer. Elle vous parlera et du théâtre et de toutes ces sortes de choses. Elle a de l'esprit, ma fille. Elle est bien éduquée. Elle parle français, elle lit des livres, tout comme feu sa sœur. On peut dire qu'elle l'a élevée. Vous savez, étant beaucoup plus âgée qu'elle, c'était une occupation. »
Madame Milovidov s'éloigna. Restée seule avec Anna, Aratov répéta son petit discours. Mais, ayant compris du premier regard qu'il avait affaire à une personne bien élevée, il s'étendit un peu, employa d'autres expressions, et à la fin se sentit émue, rougit, et son cœur battit plus fort. Anna l'écoutait en silence, les mains posées l'une sur l'autre. Un sourire mélancolique ne quittait pas son visage. Une douleur amère et non encore épuisée se lisait dans ce sourire même.
« Vous avez connu ma sœur ? » demanda-t-elle à Aratov.
« Non, à vrai dire, je ne l'ai pas connue. Je ne l'ai vue et entendue qu'une seule fois, mais il suffisait de la voir et de l'entendre une seule fois.
« Vous voulez écrire sa biographie ?» interrompit Anna.
Aratov ne s'attendait pas à cette parole, mais il répondit immédiatement. « Pourquoi pas ? Il faudrait surtout faire connaître au public. »
Anna l'arrêta du geste. « Oh non, non, le public ne lui a fait que trop de chagrin. Et puis, Katia commençait à peine à vivre. Mais si vous-même... »
Anna regarda Aratov et sourit de nouveau du même sourire triste, mais un peu plus bienveillant cette fois. Elle semblait se dire « Oui, tu m'inspires de la confiance. »
Et si vous vous intéressez tant à elle, « permettez-moi de vous prier de venir ce soir après dîner. »«
Je ne puis pas comme cela, tout à coup. Je rassemblerai mes forces. J'essaierai.
Ah, je l'ai trop aimée. »
Anna se détourna. Elle était prête à sangloter. Aratov se leva rapidement de sa chaise, remercia, dit qu'il viendrait certainement, pour sûr, et partit en emportant dans son âme l'impression d'une voix douce et d'yeux sympathiques et tristes, et dévoré par l'anxiété de l'attente.
Chapitre 13. Le même jour, Aratov retourna chez les Milovidov, et il eut une conversation de près de 3 heures avec Anna. Madame Milovidov avait l'habitude de se coucher aussitôt après le dîner, à 2 heures, et reposait jusqu'au thé du soir à 7 heures. La conversation qu'Aratov eut avec la sœur de Clara ne fut pas une conversation proprement dite, car elle parla presque seule, avec embarras d'abord, puis avec une animation toujours croissante, un entrain. On voyait qu'elle adorait sa sœur. La confiance qu'Aratov lui inspirait ne faisait que s'accroître, sa présence ne la gênait plus. Elle pleura même en silence devant lui. Il lui semblait digne de recevoir toutes ses confidences. Dans sa vie, sourde et silencieuse, elle n'avait jamais rencontré rien de semblable. Et lui, il buvait chacune de ses paroles. Voici ce qu'il apprit. Dans son enfance, Clara avait été indubitablement une enfant peu agréable.
et devenue jeune fille, elle ne s'était guère adoucie. Volontaire, irascible, pleine d'amour-propre, elle était toujours en guerre, avec son père surtout, qu'elle méprisait, et pour son ivrognerie et pour son incapacité. Il le sentait bien. Aussi ne le lui pardonna-t-il jamais. Ses dispositions musicales se montrèrent de bonne heure, mais son père ne fit rien pour les développer. En fait d'art, il ne reconnaissait que la peinture, dans laquelle il était si peu de choses, mais qui les nourrissait, lui et sa famille. Clara aimait sa mère, négligemment, comme on aime une vieille bonne. Elle adorait sa sœur, quoiqu'elle se battît avec elle et qu'elle la mordît souvent. Il est vrai qu'ensuite elle se mettait à genoux devant elle et baisait les endroits mordus. Elle était tout feu, toute passion, toute contradiction. Vindicative et bonne, généreuse et rancunière. Elle croyait à la destinée et ne croyait pas en Dieu. Anna prononça ces derniers mots avec terreur. Elle aimait le beau, mais n'avait aucun souci de sa propre beauté et s'habillait n'importe comment. Elle ne pouvait souffrir que les jeunes gens lui fissent la cour et dans les livres ne lisait que les pages où il était question d'amour. Elle ne voulait pas plaire, n'aimait pas les caresses, et pourtant n'oubliait jamais celles qu'elle avait reçues, pas plus que les offenses. Elle avait peur de la mort, et elle finit par se tuer elle-même. Elle disait quelquefois « Je ne rencontrerai jamais un homme tel que je le veux. » Et d'autres « Je n'en veux pas. » « Et si pourtant tu le rencontres ?» demandait Anna. « Si je le rencontre, je le prends. » Et s'il ne se donne pas, alors j'en finirai avec moi-même. Cela voudra dire que je ne vaux rien. Le père de Clara demandait quelquefois à sa femme « De qui as-tu eu ce démon-là ? Pas de moi, certes. » Le père de Clara, voulant se débarrasser d'elle, l'avait fiancée à un jeune marchand très riche, mais fort bené, quoique civilisé. 15 jours avant le mariage, Clara n'avait que 16 ans. Elle s'approcha de son fiancé, les bras croisés, en tambourinant des doigts sur ses coudes. C'était son geste favori. Tout à coup, pan, elle appliqua sa grande belle main sur la joue rose et rebondit du bonnet. Elle sauta sur ses pieds et ne put couvrir la bouche. Il faut vous dire qu'il était éperdument amoureux d'elle. « Pourquoi ? » demanda-t-il. Elle se mit à rire et sortit de la chambre. « Je me trouvais là. » ajouta la sœur. « J'avais été témoin de la chose. Je courus après elle. « Katia, au nom du ciel, qu'as-tu fait ?» Et elle de répondre « Si c'était un vrai homme, il m'aurait battu. Mais ce n'est qu'une poule mouillée, et il demande encore pourquoi. Si tu aimes et si tu ne veux pas te venger, alors souffre en silence et ne demande pas pourquoi. Jamais il n'aura rien de moi. Jamais au grand jamais. » Naturellement, elle ne l'épousa point. Du reste, bientôt après, elle fit la connaissance de cette actrice et quitta notre maison. Ma mère pleura un peu, mais le père se contenta de dire « Chèvre rebelle, hors du troupeau !» Et il ne fit aucune démarche pour la retrouver. Mon père ne comprenait pas Clara. La veille de sa fuite, continua Anna, elle manqua m'étouffer dans ses embrassements. Elle répétait toujours « je ne puis pas autrement. Mon cœur se brise, mais je ne puis pas. La cage est trop petite pour mes ailes. Et puis, on ne peut pas éviter sa destinée. » Après cela, nous nous vîmes rarement. Quand le père mourut, elle vint pour 2 jours, ne voulut rien de la succession. Elle était si désintéressée et disparut de nouveau. Le séjour d'ici lui pesait, je le voyais bien. Elle ne nous revint que s'étant déjà faite actrice. Aratov se mit à questionner Anna sur le théâtre, sur les rôles dans lesquels Clara avait paru, sur ses succès. Anna répondait en détail, et toujours avec la même tristesse, avec la même animation. Elle montra à Aratov une carte photographique qui représentait Clara dans un de ses costumes. Sur cette carte, elle regardait de côté, comme si elle se fût détournée des spectateurs. enroulée d'un large ruban, sa lourde tresse tombait comme un serpent sur son bras nu. Aratov considéra longtemps la photographie, la trouva ressemblante, demanda si Clara n'avait pas pris part à quelque lecture publique. Il apprit que non, qu'elle avait besoin de l'excitation de la scène. Mais une autre question lui brûlait les lèvres. « Anna Semyonovna, s'écria-t-il enfin d'une voix peu élevée mais d'une singulière intensité d'expression. « Dites-moi, je vous en supplie, pourquoi s'est-elle décidée à cette terrible action ?» Anna baissa les yeux. « Je ne sais pas, » dit-elle enfin. « Devant Dieu, je ne le sais pas. » continua-t-elle avec véhémence, s'étant aperçue qu'Aratov avait écarté les deux mains en signe d'incrédulité. Dès son arrivée ici, elle était rêveuse, sombre. Quelque chose lui sera arrivé à Moscou que je ne puis deviner. Mais, au contraire, le jour fatal, elle était, sinon plus gaie, du moins plus calme que d'ordinaire. Moi-même, je n'avais aucun pressentiment. Ajouta Anna avec un amer sourire, comme si elle se le fût reproché. « Voyez-vous, reprit-elle, on dirait qu'il était écrit que Katia serait malheureuse. Elle en était persuadée dès son enfance. Parfois, elle appuyait sa tête sur sa main, le regard perdu devant elle, et disait « Je ne vivrai pas longtemps. » Elle avait des pressentiments. Imaginez-vous qu'elle voyait d'avance, quelquefois en rêve, quelquefois éveillée, ce qui devait lui arriver. Vivre comme on veut ou pas du tout, c'était aussi son mot. Après tout, notre vie est en notre pouvoir. Et elle l'a prouvé. Anna se couvrit les yeux avec les mains et se tut. « Anna Semyonovna, fit Aratov après un court silence, vous avez peut-être su à quoi les journaux ont attribué... Un amour malheureux, interrompit Anna en ôtant brusquement les mains de son visage. C'est une calomnie, un mensonge. Ma pure, mon inabordable Katia. Et un amour malheureux, repoussé, et je ne l'aurais pas su. Et qui aurait-elle aimé ici? Qui donc parmi tous ces gens était digne d'elle? Qui s'était élevé jusqu'à cet idéal d'honnêteté, de sincérité, de pureté surtout? Cet idéal qui, malgré tous ses défauts à elle, lui était toujours présent. La repousser, elle! Ici, la voix d'Anna se brisa. Ses doigts tremblèrent, elle devint toute rouge, rouge d'indignation. Et dans ce moment, pour un seul moment, elle ressembla tout à coup à sa sœur. Aratov allait s'excuser. « Écoutez, interrompit Anna, je veux absolument que vous, vous-même, ne croyiez pas à cette calomnie et que vous m'aidiez à la dissiper. Voilà, vous voulez écrire je ne sais quoi, un article sur elle. Voilà une occasion de défendre sa mémoire. C'est pourquoi je vous parle si franchement. Écoutez, Katia a laissé un journal. » « Un journal ?» murmura Aratov. « Oui, un journal, c'est-à-dire en tout quelques pages. Katia n'aimait pas à écrire. Elle n'inscrivait rien pendant des mois entiers. Ses lettres aussi étaient toujours fort courtes. Mais elle était toujours, toujours sincère. Elle ne mentait jamais. Mentir avec son amour-propre. Je vais vous montrer ce journal. » Vous verrez vous-même s'il s'y trouve la moindre allusion à je ne sais quel amour malheureux. » Anna prit précipitamment du tiroir de la table un mince cahier d'une dizaine de pages au plus et le tendit à Aratov. Celui-ci le saisit avec avidité, reconnut immédiatement la grande écriture irrégulière de la lettre anonyme, ouvrit le cahier au hasard et ses yeux tombèrent sur les lignes suivantes. « Moscou, mardi, juin. Lu et chanté à une matinée littéraire. C'est un jour significatif pour moi. Il doit décider de mon sort. » Ces mots étaient deux fois soulignés. « J'y ai revu. » Il y avait plusieurs lignes soigneusement effacées. Et plus loin, « Non, non, non.
Il faut reprendre son collier, si pourtant c'était possible. »
Aratov laissa tomber la main qui tenait le cahier, et sa tête se pencha lentement sur sa poitrine.
« Mais lisez donc !» s'écria Anna. « Pourquoi ne lisez-vous pas ? Reprenez du commencement, vous n'en avez que pour quelques minutes. Quoique ce journal renferme près de 2 années. À 15 ans, elle n'y a plus rien écrit. »
Aratov se leva de sa chaise et tomba lourdement à genoux devant Anna. Celle-ci resta comme pétrifiée de surprise et d'effroi.
« Donnez-moi ce journal !» dit Aratov d'une voix entrecoupée, en tendant ses deux mains vers Anna. « Donnez-le-moi, et la photographie aussi. Vous en avez certainement une autre. Je vous rendrai le journal. Mais il me le faut, il me le faut !»
Dans sa supplication, dans le bouleversement de ses traits, il y avait quelque chose de si désespéré que cela ressemblait presque à de la colère, à de la souffrance. Il souffrait, en effet. On aurait dit qu'il n'avait jamais pu prévoir ce qui lui arrivait, et c'est avec une sorte de fureur qu'il suppliait de l'épargner, de le sauver.
« Donnez !» répétait-il. « Mais vous avez donc été amoureux de ma sœur ?» dit enfin Anna.
Aratov continuait à rester à genoux.
« Je ne l'ai vue que 2 fois, croyez-moi, et si je n'y étais poussé par des causes que je ne puis ni comprendre ni expliquer, si je ne sentais pas peser sur moi un pouvoir plus fort que moi-même, je ne me serais pas mis à vous prier. Je ne serais pas venu ici. Il me faut ce cahier. N'avez-vous pas dit vous-même qu'il était de mon devoir de réhabiliter sa mémoire ?
Et vous n'avez pas été amoureux de ma sœur ? demanda de rechef Anna. Aratov ne répondit pas sur le champ et détourna la tête comme pour éviter un coup.
« Eh bien, oui, oui, je l'ai été, et je le suis encore maintenant !»
s'écria-t-il avec un vrai désespoir cette fois.
Des pas se firent entendre dans la chambre voisine. « Levez-vous, levez-vous !»
se hâta de dire Anna.
« Voilà maman !»
Aratov se releva.
Et prenez le journal et la photographie aussi.
Pauvre, pauvre Katia.
Mais vous me rendrez mon journal. Et si vous écrivez quelque chose, vous me l'enverrez immédiatement, entendez-vous?
L'apparition de Madame Milovidov délivra Aratov de la nécessité de répondre. Il eut cependant le temps de murmurer.
Vous êtes un ange. Merci, je vous enverrai tout ce que j'écrirai.
Madame Milovidov, tout endormie encore, ne se douta de rien. Dès le jour suivant, Aratov partit de Kazan, emportant la photographie dans sa poche. Quant au journal, il l'avait rendu à Anna. Mais après en avoir arraché le feuillet sur lequel se trouvaient les mots soulignés. Pendant le voyage de retour, la même torpeur le reprit, quoiqu'il se réjouît intérieurement d'avoir pourtant atteint son but. Il repoussait obstinément toutes les idées sur Clara. Il pensait beaucoup à sa sœur, à Anna.
« Voilà, se disait-il, un être excellent. Quel cœur aimant, quelle absence d'égoïsme et quelle finesse de compréhension. Et dire que chez nous, en province et dans un pareil milieu, fleurissent de semblables natures. Elle est maladive, pas jolie, pas très jeune, mais quelle excellente compagne elle serait pour un brave homme. Voilà de qui on devrait devenir amoureux. »
Aratov pensait ainsi, mais une fois arrivé à Moscou, les choses prirent une autre tournure. Chapitre 14. Platonida se réjouit extrêmement du retour de son neveu. Que ne s'était-elle pas imaginé pendant son absence ?
« Tout au moins en Sibérie, » se disait-elle, blottie dans un coin de sa chambrette, « et tout au moins pour 1 an. »
De plus, la cuisinière l'effrayait en lui communiquant les nouvelles les plus certaines sur la disparition, tantôt d'un jeune homme, tantôt d'un autre du voisinage. La complète innocuité politique de Yasha ne rassurait aucunement la bonne vieille. Parce que...
Que peut-on savoir? Il s'occupe de photographie. Cela suffit pour qu'on le saisisse.
Et voilà que son Yasha est revenu sain et sauf. Elle remarqua, à la vérité, qu'il avait un peu maigri et que son bon petit visage était un peu tiré. Mais c'était bien naturel, personne pour le soigner. Pourtant, elle n'osa pas le questionner sur son voyage. Elle demanda pendant le dîner
« Kazan, c'est une belle ville ?»«
Très belle, » répondit Aratov. « Il n'y a là que des Tartares, n'est-ce pas ?»«
Pas que des Tartares. »
« Et tu n'as pas rapporté une de leurs belles robes de chambre ?»«
Non, je n'en ai pas rapporté. »
Et la conversation se termina là. Mais dès qu'Aratov se trouva seul dans son cabinet, il sentit immédiatement comme si quelque chose l'enveloppait de toutes parts, comme s'il se trouvait sous le pouvoir d'un autre être. Quoi qu'il eût dit à Anna, dans son élan d'exaspération subite, qu'il était amoureux de Clara, ce mot lui semblait maintenant à lui-même privé de sens, tout à fait absurde. Non, il n'était pas amoureux. Et comment être amoureux d'une morte, qui même ne lui avait pas plu pendant sa vie, et qu'il avait presque oubliée? Non, mais il était en son pouvoir. Il ne s'appartenait plus. Il était pris. Pris au point qu'il ne pouvait plus se délivrer, ni en se moquant de sa propre absurdité, ni d'aucune façon. Il se rappelle les paroles de Clara, que Anna lui avait répétées. « Si je le rencontre, je le prends. » Et le voilà pris. « Mais puisqu'elle est morte,
oui, son corps.
Et l'âme, est-ce qu'elle n'est pas immortelle? Est-ce qu'il lui faut des organes terrestres pour manifester sa puissance? Voilà. Le magnétisme nous montre l'influence d'une âme humaine vivante sur une autre âme humaine vivante. Et pourquoi cette influence ne continuerait-elle pas après la mort, puisque l'âme reste vivante? Mais dans quel but? Qu'est-ce qui peut en résulter? Mais est-ce que nous comprenons, en général, le but de tout ce qui se passe autour de nous? Ces pensées occupaient Aratov à un tel point que, tout en prenant le thé, il demanda soudain à Platosha si elle croyait à l'immortalité de l'âme. Celle-ci ne comprit pas d'abord ce qu'on lui demandait, puis elle se signa et dit « Par exemple, qu'est-ce qui serait immortel si ce n'est une âme ?»« Et s'il en est ainsi, » demanda Aratov, « peut-elle agir après la mort ?» La bonne femme répondit que oui, c'est-à-dire qu'elle pouvait prier pour nous, et encore seulement après avoir passé les 7 épreuves dans l'attente du jugement dernier. Les premiers 40 jours, elle ne fait que voltiger autour de l'endroit où la mort l'a surprise. Les premiers 40 jours seulement? Oui, et ensuite commencent les épreuves. Aratov admira la précision des informations de sa tante et rentra dans sa chambre. Aussitôt, il ressentit la même chose, le même pouvoir qui le dominait. Ce pouvoir se montrait, entre autres, en ce que l'image de Clara se présentait perpétuellement devant lui, jusque dans les plus petits détails, jusqu'en des détails qu'il ne se souvenait pas d'avoir remarqués quand il l'avait vue. Maintenant, il voyait, oui, il voyait ses doigts, ses ongles, les poils follets s'allongeant de ses tempes sur ses joues, un petit signe sous l'œil gauche. Il voyait les mouvements de ses lèvres, de ses narines, de ses sourcils. Et quelle espèce de démarche elle avait! Et comment elle tenait sa tête un peu penchée du côté droit! Il voyait tout! Non qu'il admira tout cela, mais il était impossible de ne pas y penser, impossible de ne pas le voir. Il ne la vit pourtant pas en rêve la première nuit après son retour. Il dormit d'un sommeil de plomb. Mais aussi, dès qu'il fut réveillé, elle entra dans la chambre et s'y installa en maîtresse du lieu. On eût dit que, par sa mort volontaire, elle avait acheté ce droit, sans demander aucune permission. Il prit la carte photographique de Clara, se mit à la reproduire, à l'agrandir, puis en fit une carte à stéréoscope. Il ne put s'empêcher de frissonner lorsqu'il aperçut à travers le verre la figure de la jeune fille ayant pris le relief d'un corps. Mais cette figure était grise, comme couverte de poussière, et ses yeux restaient toujours détournés. Il se mit à les regarder fixement, longtemps, comme s'il espérait que... Et voilà, voilà, ils vont se tourner vers lui. Mais les yeux restaient immobiles, et toute la figure prenait un aspect de poupée. Aratov se jeta dans un fauteuil, prit le feuillet arraché du journal et pensa. On dit que les amoureux baisent les lignes tracées par une main aimée. Je n'ai nulle envie de le faire. L'écriture ne me semble pas jolie, mais ces lignes soulignées renferment mon arrêt. La promesse faite à Anna d'écrire un article lui revint à la mémoire. Il se mit à la besogne. Mais tout ce qui sortait de sa plume était si froid, si forcé, si faux surtout. On eût dit qu'il n'avait aucune foi, ni dans ce qu'il écrivait, ni dans ses propres sentiments. Clara elle-même lui semblait incompréhensible. Décidément, elle se refusait à lui. Il jeta la plume en se disant que, ou bien il n'avait pas de talent d'écrivain, ou bien il fallait encore attendre. Il pensa à sa visite chez les Milovidov, à cette excellente Anna, et ce mot « intact » qu'elle avait appliqué à Clara lui revint à l'esprit. Ce mot sembla le brûler et l'éclairer tout à la fois. « Oui, dit-il, intact, vierge comme je suis vierge moi-même, voilà ce qui lui donne ce pouvoir. » Les pensées sur l'immortalité de l'âme, sur la vie au-delà de la tombe, s'éveillèrent de nouveau dans son esprit. N'est-il pas dit dans la Bible « Mort, où est ton aiguillon ?» Et Schiller n'a-t-il pas écrit « Les morts aussi vivront ?» Et dans Mickiewicz « Je t'aimerai jusqu'à la fin des siècles et après la fin des siècles. » Et un écrivain anglais n'a-t-il pas dit « L'amour est plus fort que la mort. » Le mot de la Bible le frappa surtout. Il voulut découvrir l'endroit où se trouve cette parole, mais il n'avait pas de Bible. Il alla en demander une à Platocha. Celle-ci fut étonnée. Elle lui remit pourtant un vieux livre dans une reliure en cuir tout racornie, avec des agrafes en cuivre et tout parsemé de vieilles gouttes de cire. Il l'emporta dans sa chambre, et pendant longtemps ne put trouver le texte qu'il cherchait. Mais il en trouva un autre, dans l'évangile de saint Jean. « Personne n'a une plus grande charité que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Et il pensa, « Le mot n'est pas exact, il aurait fallu dire, « Personne n'a une plus grande puissance. » Mais si ce n'était pas pour moi qu'elle a donné sa vie, et si elle n'en a fini avec la vie que parce qu'elle en avait assez? Mais ici, il se rappela de nouveau la scène de l'entrevue. Ce visage, ses larmes, il entendit de nouveau ces paroles. « Vous ne m'avez pas comprise !» Non, il ne pouvait pas douter de la raison pour laquelle elle s'était sacrifiée. Ainsi se passa toute la journée, jusqu'à la nuit.